France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout. Vous.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de ne rien dire.
Partir pour vivre ailleurs, partir pour résister ailleurs. L'exil politique au cœur de ces deux films, deux portraits, deux vécus. L'une est à Mexico, l'autre en France. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à tous.
Maria, militante révolutionnaire guatémaltèque exilée à Mexico, où elle poursuit son activité politique et face à un choix crucial, son rôle de mère ou celui d'activiste. Bonjour Bérénice Bejo.
Bonjour.
Grand témoin de ce film Mexico 86, Maria, une femme complexe et courageuse. Bonjour César Diaz.
Bonjour.
Réalisateur de ce film, proche et à la fois distancié de votre propre histoire. Mexico 86 sur nos écrans depuis mercredi. Une guerre civile qui a ravagé le Sri Lanka et sa population tamoule, dont 60 000 se sont réfugiés en France. Bonjour Lorenz Valin.
Bonjour.
Votre premier long, Little Jaffna, est un polar qui raconte cette communauté à Paris, à La Chapelle et au centre, un policier, c'est vous qui l'incarnez, qui interroge son identité et son appartenance culturelle. Little Jaffna à l'affiche dès mercredi prochain. Enfin, les sorties de la semaine à côté de Mexico 86, de la chambre de Mariana à Simon de la Montagna. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Hija, no dejes que tu niño viva con extraños.
Es tu hijo. Si me quedo, los matan a los dos.
Puede quedarse aquí conmigo hasta que regreses. Hasta que las cosas se calmen. No dejes que se vaya a Cuba. Por favor. Mija.
No sé cuándo voy a regresar.
No importa.
No quiero irme sin él.
Vos ahorita estás en peligro. Si el nene se queda con tu mamá, esa es una buena opción. Y vos lo sabes.
Dans ce film Mexico 86, Maria, activiste très recherchée au Guatemala, c'est vous Bérénice Bejo, doit s'enfuir au Mexique en laissant son bébé à sa mère, c'est ce qu'on vient d'écouter. Avant d'évoquer cette question cruciale du choix, César Diaz, un mot sur cette dictature au Guatemala, moins représentée au cinéma qu'en Argentine ou au Chili. On peut la résumer en quelques mots, même si c'est court. Années 80, l'armée et les groupes d'extrême droite ont massacré 220 000 personnes, morts ou disparues, la plupart des Indiens descendants des Mayas, 1 million de déplacés internes et 400 000 réfugiés à l'étranger entre 60 et 96. Vous, vous êtes né en 78, en pleine guerre civile, et vous aviez 3 ans quand votre mère résistante contre la dictature s'est exilée au Mexique. Vous n'avez aucun souvenir ?
Non, non, non. De ma mère, en étant petit au Guatemala, aucun. J'ai des photos, je les vois encore, mais non.
Et se décider à faire ce film, c'est pas, vous dites, c'est pas une thérapie, c'est quoi alors ?
Moi, je pense que si c'était une thérapie, ça serait compliqué d'écrire.
Vous auriez fait une thérapie déjà.
Voilà, je l'ai déjà fait une.
Un peu moins coûteux.
Voilà. Et je pense qu'on peut pas être en pleine thérapie... en faisant un film. Enfin, c'est pas possible. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent à côté. L'écriture, déjà, est un voyage en soi. Et puis, concrètement, quand on rentre sur un plateau, c'est 40 personnes qui vous demandent quoi faire. Donc, si on est en pleine thérapie, il faut donner à ces 40 personnes des réponses claires. Et donc, c'est pas possible. C'est
mais
pas
comment, parce que l'histoire est assez proche, oui. Comment trouver une distance, alors ?
Bah, déjà, en imaginant des actrices pour écrire, oui. comme Bérénice.
Ah, vous avez
pensé à elle, oui.
J'avais pensé à elle sans savoir qu'elle était argentine, en fait. J'avais pensé à elle en pensant au passé de Faraday.
Ah, c'est drôle, ouais.
Déjà, en écrivant, en imaginant que c'est des personnages, des vrais personnages, avec un univers, un monde à eux, et puis je peux pas dire que c'est moi. Après, j'ai nourri de mes souvenirs et des souvenirs d'autres, mais commencer par se dire ce sont des personnages, je pense que...
La fiction, la vraie
la fiction. La vraie fiction.
D'accord,
et surtout, oui. Après, c'est pour ça que je dis que c'est autobiographique, mais c'est pas de l'autofiction, parce parce que quand on est tributaire de ce qui s'est vraiment passé, tout d'un coup, les éléments narratifs n'existent plus, parce qu'on est en train de reproduire exactement ce qui s'est passé. Alors que là, à partir du moment où les gamins arrivent au Mexique, tout est inventé. Enfin, jamais été pourchassé par des G2, enfin, heureusement d'ailleurs.
C'est drôle parce que vous parliez d'une photo de vous petit, la photo est importante dans le film parce que cette femme ne veut pas se faire prendre en photo. Par son fils. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un film qui a démarré avec une photo, en fait.
C'est un film qui a démarré avec des souvenirs. Et une nécessité de me dire.
Des souvenirs sans souvenirs, puisque vous vous en souvenez pas, mais c'était.
Bah oui, c'est compliqué.
C'est les photos qui vous font souvenir.
On crée un imaginaire,
je crois.
On crée un imaginaire, et à partir de là, effectivement, on peut projeter la fiction.
Ouais. Vous, Bérénice Bejo, donc à 3 ans, vous quittez l'Argentine avec votre famille en pleine dictature. Je vous pose la même question, mais même à 3 ans, il y a une image, une odeur, quelque chose de ce moment-là ou pas ?
Bah, comment savoir ce qui fait partie des souvenirs, des photos, des films ? Moi, je recevais tous les ans un paquet d'Argentine, parce que mes parents n'avaient pas d'argent, donc il y avait un gros paquet qu'on recevait avec des vêtements. Et à chaque fois qu'on ouvrait ce paquet à Noël, c'était l'odeur de l'Argentine. Mmh. Les vêtements, les bonbons, les sougousses qu'on mangeait de toutes les couleurs.
Sougousses.
Préférence goût ananas.
Ouais. C'est dit.
Voilà, c'est dit. Mais j'ai vu beaucoup de films Super 8 de mes parents, mais j'ai complètement idéalisé. Suite à ce film, César, il faudra qu'on en parle, j'ai appris des choses en fait. Et je me rends compte que mes parents m'ont tellement protégée que je sais rien, en fait. J'ai grandi en pensant que j'avais une jeunesse idéale, parfaite, et en réalité, pas tant que ça.
Et en même temps, vous, actrice, vous vous êtes protégée de ces histoires-là aussi. C'est-à-dire que c'est la première fois que vous acceptez, même si c'est au Guatemala et au Mexique, c'est quand même dans vos contrées. Et pourquoi là ? Parce que vous vous sentiez plus lointaine ?
Je disais ça, mais en faisant la promo, je me suis rendu compte que j'étais prête, finalement.
Mais c'est ça. C'est
j'étais juste prête à affronter cette histoire, et surtout prête à affronter mes parents et les mettre face à cette histoire. Mais ça a été très, très douloureux pour ma mère de voir ce film.
Et vous avez compris, du coup, ce silence des années. Bon,
oui,
vous l'avez compris avant, mais...
J'avais compris avant, et c'est surtout en expérimentant, c'est-à-dire en jouant ces scènes dans le film de César, j'ai ressenti, peut-être, d'une manière un peu simple, hein, en tant qu'actrice, ce qu'avaient pu être certains moments de la vie de mes parents.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une souffrance du côté de votre mère ? Pardon, on ne s'allonge pas là du tout, mais... Non, parce que votre mère, cette femme, est repartie en France. Vous, dans le film, vous faites le positif ou le négatif, vous restez, donc il y a un vrai truc.
Je pense que l'un ou l'autre est une décision difficile. Enfin, l'une
une
comme l'autre est
une déchirure.
Voilà, je pense que ma mère, elle aurait aimé rester et continuer à se battre, et ce n'était pas possible. Pour une question de vie ou de mort, hein, tout simplement. Et elle était avec mon père, ils ont décidé d'avoir des enfants pendant la dictature. C'était un vrai choix, je lui ai vraiment demandé. C'est pas arrivé par hasard. Donc voilà, elle a décidé qu'elle allait élever ses enfants dans un autre pays et leur donner une chance.
Comment vous voulez te raconter cette femme ? Elle est complexe, elle est dure, elle est hermétique, elle est douce avec son... C'est un sacré mélange.
C'est un personnage magnifique, je pense que c'est un de mes plus beaux rôles que m'a offert César.
Oui, je pense qu'on peut le dire.
Oui,
il parle de Faraday, mais je pense que voilà, c'est un personnage très complexe, on ne voulait pas qu'on la juge. Je pense qu'il m'a choisi parce que j'ai une sorte de... Comment dirais-je ? Je suis quelqu'un qui fait très enfant, d'une certaine manière. Je fais très jeune, très douce. Et en même temps, je pense que je trimballe l'histoire de mes parents au fond de moi. Et donc, il y a une espèce de contraste entre ce que je représente, comme ça, dans les films de Michel, par exemple.
Michel Hazanavicius.
Michel Hazanavicius, le soleil.
Il y a une plasticité.
Voilà. Et, puis, et en même temps, il y a aussi une conviction de la part de cette femme, c'est un choix qui est un non-choix pour elle. Elle s'engage parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a des idéaux, une envie de se battre pour quelque chose qui est plus grand qu'elle. Et c'est vrai que c'est une héroïne, et c'est une héroïne moderne.
Et alors, c'est traité sans pathos. Je vous disais avant de commencer que Bérénice, quand elle porte une perruque dans le bureau, parce qu'elle a un double emploi, elle est secrétaire de rédaction dans un grand journal.
Elle a beaucoup de perruques.
Elle me fait penser à Faye Dunaway, et elle fait penser à ces polars un peu parano et sec des années 70 américain.
Ah, mais bien sûr. Sidney Lumet était
exact.
Le condor.
Était pas loin.
Oui, j'imagine.
Pas loin. Oui. Running on Empty à bout de souffle.
À bout de course.
À bout de course, pardon. À bout de course.
Ouais.
Était pas loin du tout. Hein. Et par contre, moi, ce qui m'est rendu dingue, c'est que Lumet, il met une voiture noire, des hommes noirs. On dit que c'est le FBI et tout le monde flippe.
Ouais.
Et nous, on essayait de faire la même chose.
C'est
en disant,
ça.
Mais comment on représente les dangers, ouais. Alors que la G2 guatémaltèque est aussi méchante. Hein.
Enfin,
ils sont
ouais.
aussi dangereux.
Ouais.
Sauf que quand vous les voyez, à l'écran, ça fait pas pareil.
Quoi. Ça, c'est du cinéma, quoi.
Ouais, exactement.
Faut faire du cinéma avec cette fameuse histoire. Le film interroge donc la notion de mère. Et d'ailleurs, vous dites que vous êtes inspiré un peu de la vôtre dans une scène de cabine téléphonique. On va pas la révéler jusqu'au bout, cette scène. On a pris un petit morceau. On va vous écouter dans le film en espagnol et en studio en français. On y va.
Maman? Comment ça va?
Ça va?
Maman?
Maman?
Si.
Oui.
Si, está bien.
Oui, il va bien.
Se está acostumbrando a su nueva vida.
Il s'habitue à sa nouvelle vie.
Quería saber de vos.
Je voulais avoir de tes nouvelles.
Tienes que seguir todas las instrucciones de seguridad. Y si tienes algún problema,
tu dois suivre les instructions de sécurité. Si tu as le moindre souci, s'il te plaît, appelle mes amis.
Es demasiado, mamá.
C'est trop pour moi, maman.
No sé si puedo hacerlo.
Je ne sais pas si je peux y arriver.
Merci.
Merci.
Et c'est vrai que cette scène a dû être poignante quand même, non? Est-ce que vous avez pensé à votre propre mère, Bérénice?
J'ai pensé à mes parents de manière générale, dans le sens où comme s'ils disaient au revoir à leur pays, à leurs amis. Mmh. Cette scène, elle m'a bouleversée. C'était une situation particulière en plus.
Oui.
Parce que c'est une jeune fille qui m'a donné la réplique et elle venait de perdre sa maman. Et elle l'avait perdue et je lui dis, t'es sûre que tu veux me donner la réplique en off? Et elle m'a dit oui. Et ça a été comme une thérapie aussi pour elle. Il y a eu comme un jeu de ping-pong, un peu, vous savez, sur les plateaux, il se passe des choses parfois qui ajoutent à la magie du cinéma. Et on a vécu quelque chose toutes les deux d'extraordinaire. Alors elle, on la voit pas, mais je la remercie. Mmh. Et c'est vrai que j'ai senti à quel point quitter un pays, partir, se déraciner, c'est pas si simple. On parle des migrants, on parle des gens qui s'exilent comme si c'était facile. Enfin, pas comme si c'était facile, mais c'était une vraie souffrance. On quitte un langage, une culture, des idéaux. Enfin, tout d'un coup, cette scène, c'était au revoir à tout ça. Mmh. Et je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue aussi d'avoir des parents qui m'ont donné la possibilité de grandir en France. Vraiment, je le dis souvent, mais qui est le pays de la démocratie, de la laïcité, de la liberté d'expression, des rêves. Mes nièces, mes neveux qui habitent encore en Argentine n'ont pas de rêves, n'ont pas de fantasmes. Moi, mes enfants, ils ont plein d'idées, plein d'envies encore. Et ces petits qui sont là-bas, ils n'en ont pas.
C'était important de filmer cette histoire, de son point de vue à elle, et pas du point de vue du petit garçon.
Je pense que je vous épargne la souffrance du petit garçon,
oui.
Parce qu'elle existe,
bien sûr.
Mais je ne vous la montre pas.
Oui.
Je pense que si on voyait la souffrance du petit, on la jugerait immédiatement.
On jugerait la mère immédiatement, et on
exigerait d'elle qu'elle s'occupe de l'enfant et qu'elle arrête de faire de sa militance. Et donc, il n'y a jamais eu la tentation de faire ça. Mm. Enfin, à un moment donné, je me l'expliquais très bien avec les outils que j'avais narratifs. Quoi.
En même temps, il y a un hiatus énorme parce que cette femme, elle lutte pour un monde meilleur pour les jeunes après. Mm. Et elle doit être séparée de son enfant. Donc c'est le hiatus de tous les révolutionnaires. Souvent on dit les hommes sont des héros et les femmes.
Des femmes révolutionnaires.
Oui, des femmes révolutionnaires.
Pas des hommes.
Non, mais souvent on dit des hommes, c'est des héros, mais les femmes, elles quittent le foyer, quoi.
Oui.
On les juge, on les juge parce que...
Abandon.
Et on a beaucoup discuté avec Bernice de ça, mais elle ne fait qu'exercer sa citoyenneté. Mmh. C'est-à-dire quand on est face à une dictature militaire, sanglante comme celle, comme la guatémaltèque, j'ai l'impression qu'on n'a pas de choix. Parce qu'on est, on est là pour défendre son pays, ses idéaux, une idée de la liberté, et aussi sa famille. C'est-à-dire, quel est le pays que je vais hériter à mes enfants? Qu'est-ce que je vais leur laisser? Est-ce qu'ils vont continuer à vivre sous une dictature militaire? Enfin, et je pense que dans cette déchirure et dans ces choix, il y a ces prix à payer, qui est de dire, je vais construire quelque chose pour mes enfants sans pouvoir les voir.
Et vous dites que c'est pas encore mieux aujourd'hui. Il y a toujours de l'exclusion sociale, de la pauvreté, du racisme.
La preuve, on a fini de tourner le film et 6 jours plus tard, les pays étaient complètement bloqués par une révolte sociale qui exigeait que les présidents qui avaient gagné les élections arrivent au pouvoir. Et donc, après, moi je pense que pendant très longtemps, je me suis dit, tout ça servit à rien, enfin, on n'a rien fait, on n'a pas construit le pays qu'on voulait. Et après, enfin, en grandissant, en faisant les films aussi, je me dis, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des élections. Aujourd'hui, il n'y a pas un militaire au pouvoir. Aujourd'hui, il y a un peu de presse. Il y a des gens en exil, évidemment.
Mais il y a un taux de corruption énorme, il paraît.
C'est terrible.
Qui est né de la guerre, d'ailleurs.
Qui est né du fait qu'après la guerre, il n'y a pas eu de justice. C'est-à-dire, si on avait assis sur les bancs des accusés ces militaires et qu'on avait fait justice, aujourd'hui, on ne serait pas là. Imaginez que 99% des crimes ne sont pas punis. Vous imaginez une société comme ça. Et donc, ça permet que tout le monde fasse tout et n'importe quoi sans avoir des conséquences. Et je pense que ça vient de là. Ça vient du fait qu'on n'a pas réglé, on n'a pas fini la guerre correctement. On a fait une loi d'amnistie, on a dit tout va bien, et puis on va continuer.
C'est pas vrai.
Mais c'est pas vrai.
Est-ce que ce film aussi, c'est pour dire qu'est-ce que nous, on est prêt à faire aujourd'hui?
Bien sûr. Je pense
il
que
sort vraiment pile poil. Voilà.
C'est le miroir qu'on met en face aux gens. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans les contextes actuels, c'est-à-dire quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour votre engagement et pour défendre vos idéaux.
Des combats comme ceux de Maria, ça existe beaucoup moins maintenant, c'est plus compliqué ce genre de combat, non?
C'est qu'il n'y en a plus un. Quand on avait un militaire au pouvoir.
Moins clandestin, en tout
cas. Voilà. Ouais.
Et on avait un ennemi clair.
Voilà. Oui, voilà, on savait à qui on combattait. Aujourd'hui, c'est plus compliqué.
Aujourd'hui, on fait
la corruption, c'est compliqué de la combattre.
Non, mais
comment on combat? On combat quoi? Internet?
Le capitalisme international.
Ouais, voilà, c'est ça.
Les changements climatiques, les grandes entreprises qui polluent la planète. Aujourd'hui, c'est très complexe. Et en plus, on n'a pas une idée qui nous porte. C'est-à-dire, à un moment donné, dans les années 60-70, on avait une idée qui disait, voilà, si on s'engage, on va construire ces pays-là.
Une meilleure société.
Une meilleure société. L'homme nouveau, enfin, il y avait quand même quelque chose derrière.
Là, c'est très fracturé, il y a beaucoup de combats, quoi.
Vous dites que les femmes côté maltèques sont très fortes. Nuestras Madres, voilà. Qui était le titre de votre film précédent.
C'est celles qui ont survécu, celles qui continuent à exiger justice, enfin, qui n'est pas rien au Guatemala, et celles qui continuent à raconter l'histoire, et qui disent encore, il ne faut pas qu'on oublie, et sinon ça va se répéter, et ça...
Les mères argentines, les mères chiliennes,
c'est
même chose.
Ouais,
les femmes de la place de mai.
Avec la recherche des corps, comme au Chili, dans le désert, etc. Ça s'appelle le Mexico 86, c'est sorti mercredi.
Allez le voir.
Et maintenant, on va pour de la chapelle, tiens.
Vous êtes un tamoul du Sri Lanka, c'est bien ça? Je suis français, monsieur. Mais Sebamalai, c'est quoi? C'était le nom de mon père. Pourquoi vous avez changé de nom? Ma grand-mère voulait qu'on s'intègre ici. Parlez-moi de votre père. Il était professeur de lettres dans une école élémentaire. Il a été tué dans un bombardement. Ça, on a pu le lire dans la demande d'asile politique de votre grand-mère. Il manque des choses dans cette demande d'asile politique. J'imagine que c'était plus simple pour avoir les papiers. Vous le saviez? Il s'est exposé contre un barrage. Il a emporté 18 soldats Sri Lankais avec lui. Ça fait quoi d'être le fils d'un kamikaze?
Michael Beaulieu, un jeune policier franco-tamoul, désigné par la DGSI, va infiltrer un groupe criminel de la communauté tamoule à Paris-la-Chapelle, connu pour l'extorsion et le blanchiment d'argent au profit des rebelles séparatistes au Sri Lanka. C'est le sujet de votre premier long métrage.
Little Jaffna ?
Oui, bien sûr.
Little Jaffna, ça y est.
Parce que Jaffna, c'est la ville à l'extrême nord du Sri Lanka. Et c'est une petite Jaffna à Paris. Mm. Là encore, avant de revenir sur le thème du film, la loyauté de ce policier mise à l'épreuve, un mot sur cette guerre civile. À partir de 1983, l'armée et le gouvernement sri-lankais ont réprimé les rebelles et séparatistes de Tigre de Libération Tamoul. Bilan, 10 000 morts, 60 000 tamouls réfugiés en France à l'époque. Vous êtes le fils d'un réfugié.
Je vais rectifier juste un truc, c'est 100 000 morts.
Oui.
Et c'est un véritable génocide qui a eu lieu, qui n'a pas toujours été encore reconnu comme un génocide. Et oui, mes parents ont fui, ma mère, ma grand-mère ont fui ce conflit et sont arrivés en France dans les années 80. Moi, je suis premier de ma famille à être né en France. Et donc, c'est vrai que, on va dire que ce conflit, en fait, j'ai grandi avec.
Et on le voyait, comme dans le film, à la télé.
Exactement. À la télé, à la radio.
Ben oui, on est à 10 000 kilomètres et on n'entend que des récits, des témoignages, mais on vit là-dessus, quoi.
Exactement.
On vit sur cette actualité-là.
C'est les échos qui nous parviennent.
Oui.
Et donc ça devient limite banal. C'est comme si on entendait, bah, y a eu deux têtes décapitées là devant la maison. Qu'est-ce que t'as mangé cet après-midi ? C'était à ce point-là normal.
Vous êtes à La Courneuve. Vous rêvez déjà de cinéma. D'ailleurs, vous avez été nourri un peu de cinéma, par exemple, je crois, du sud de l'Inde.
En fait, depuis très petit, je regardais, on va dire, les films de dimanche.
Oui.
Donc, je regardais aussi les films avec Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Et en même temps...
Il n'y a pas de mal à ça.
J'aimais bien, mais c'est vrai que il y avait un moment donné où je n'avais pas la même couleur de peau, donc j'avais du mal à m'identifier. Et donc, je regardais pas mal de films du sud de l'Inde, donc c'est le Kollywood.
Oui.
Et donc, un acteur en particulier qui s'appelle Vijay, avec qui j'ai regardé plein de films, qui m'a donné envie, en tout cas moi, de devenir acteur aussi à mon tour. Sauf que ma grand-mère m'a dit très tôt, c'est pas un métier pour moi, c'est un métier pour les Blancs. Et donc j'ai dit d'accord. Et donc j'ai laissé couler comme ça jusqu'à mes 21 ans.
Quelle langue elle vous parlait, votre grand-mère ?
Elle me parlait en tamoul.
Oui. Et vous, donc, vous êtes fluent, les deux.
Les deux
langues.
Ouais.
Vous avez été candidat pour Dipan, le film de Jacques Audiard. Vous vouliez le rôle principal, en fait.
Bah, c'est sûr que quand on a Jacques Audiard qui se dit on va faire un film avec un franco-tamoul en rôle principal.
C'est moi.
C'est moi le prochain travail. J'étais dedans. C'est le destin. Sauf que le destin, il est passé où j'avais pas l'âge qu'il fallait. Un personnage plus vieux.
Oui, c'est vrai.
Et donc, le film se fait. Palme d'or à Cannes.
Mais vous êtes figurant.
On me propose figurant, je refuse.
Mais vous refusez. Vous avez une dignité.
Non, au-delà de dignité, c'est vrai. Oui, peut-être c'est mon ego de comédien qui a
pas.
Oui,
c'est normal, évidemment.
Mais du coup, je vois le film se faire. Palme d'or à Cannes, et derrière je me dis bon, qui derrière Jacques Audiard va faire un film avec un franco-tamoul en rôle principal ?
Eh ben c'est vous !
Voilà. Quelques années plus tard, mais voilà.
Donc pas de modèle, effectivement, au cinéma. D'ailleurs, ils sont souvent cantonnés dans les rôles de marchands de roses ou serveurs.
Je suis souvent cantonné à des rôles de vendeurs de roses, de vendeurs de marrons, de fakir, le meilleur ami indien.
Ouais.
Je les ai tous faits. Et donc après, à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter.
Ouais.
Je vais arrêter parce que du coup, c'est alimenter ce cliché et ces stéréotypes. Et je me suis dit, je vais essayer de raconter autrement. Parce que c'est vrai que la représentation des franco-tamouls dans le cinéma français, à chaque fois, c'est un migrant. Et donc, ça a le droit d'exister, mais moi, je ne me reconnais pas dans ces représentations-là.
Mais vous le dites même sur Dipan, hein, d'ailleurs. Vous n'êtes pas forcément très tendre avec ce que montre Dipan.
Moi, Dipan, c'est encore une fois, j'avais beaucoup d'attentes sur ce film en me disant, peut-être que derrière, on va avoir une visibilité et on va pouvoir peut-être avoir des rôles. Et en fait, c'est vrai que on a utilisé cette communauté, et derrière, c'est bon, on l'a fait, on passe à une autre communauté. Et pour moi, c'est quelque part où je me suis dit, il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement d'histoires qui ne sont pas racontées, tellement de visages qu'on n'a pas encore vus dans le cinéma français. Et donc, je me suis dit, en fait, s'il n'y a personne qui le fait, je vais le faire moi.
C'est fou votre parcours, parce que vous allez à la FEMI, ce programme d'égalité des chances, hein, pour former des jeunes autodidactes comme vous l'êtes. Et c'est là que vous écrivez d'ailleurs votre court-métrage, qui est la base de ce long. Donc... C'était compliqué d'accéder à cette formation
En fait, on appelle ça le programme La Résidence. C'est un programme qui a été mis en place, justement, c'est un peu la discrimination positive. Mais en gros, voilà, on était un peu la promo Benetton. Moi, j'ai aucun problème avec ça. C'est qu'on était les gens racisés un peu. On disait, bon, bah, on a besoin d'ouvrir, en tout cas, l'école, la FEMIS, à des nouveaux profils. Et moi, j'arrive comme ça dans ce cadre-là. Et j'ai envie de jouer, j'ai envie de réaliser, j'ai envie de parler de la communauté tamoule comme on ne l'a jamais vue. Et donc, j'arrive comme ça, on va dire comédien frustré, parce que j'ai beaucoup de choses à me prouver en tant que comédien, sauf que là-bas, on m'apprend à devenir réalisateur. Et on me dit, voilà, t'as été pris dans une formation pour devenir réalisateur, donc il faut aussi qu'à un moment donné, c'est le film qui parle pour toi. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à développer l'écriture de scénario et aussi la mise en scène et tout ce qui s'ensuit, où j'ai fait ce premier court-métrage.
Oui, qui a été bien reconnu d'ailleurs.
En fait, je n'avais pas du tout conscience de l'industrie. Pour moi, il y avait juste un truc, je voulais raconter une histoire, ce quartier, les échos du conflit sur justement comment un conflit qui a lieu à 10 000 km de là peut avoir un impact ici en France.
Ouais.
Et c'était ça que j'avais envie de raconter. Et pour moi, je me disais, bah, si le film, je le termine et que j'étais pris à l'époque, c'était Ciné Banlieue, c'était un festival qui mettait en avant des films qui viennent de la banlieue.
Ouais.
Je me disais, bah, c'est génial, si je suis pris là-bas, c'est génial. Et on est pris là-bas, on gagne le grand prix. Et dans ma tête, je me suis dit, fin de carrière, c'est bon, j'ai réussi. Et ça s'arrête là. Sauf qu'en fait, pour moi, ça a été le début, parce que derrière, le film a été pris à Clermont-Ferrand.
Oui.
Et c'est là où j'ai vu un vrai changement, où d'un coup, j'avais tous les producteurs qui me disaient, on veut le long.
Oui, c'est ça. Et le long, 6 ans d'écriture.
Le long, c'est vrai que j'étais pas préparé, mais on va dire que... En fait, c'est simple, c'est que je parle, on va dire, d'une communauté qui est très peu représenté dans le cinéma français. Je parle d'un conflit qui est très peu médiatisé aussi en France. Donc c'est quand même un film niche, sans aucune tête d'affiche. Donc forcément, je me suis dit, c'est pas le casting qui va faire qu'on va me donner de l'argent sur ce film, ça va être le scénario. Mmh. Et donc j'ai voulu prendre mon temps. Donc j'ai mis 5 ans pour l'écrire. Et je me suis dit que j'ai cumulé tous les labels possibles de résidence d'écriture, en me disant que comme ça, quand on va voir la page de garde, ils vont se dire, ok, c'est forcément un bon scénario. C'était ma stratégie.
Pas mal,
ça a marché. Ça a marché parce que le financement s'est passé très vite.
Ouais.
On a eu le financement assez rapidement. Et donc du coup, pour moi, 5 ans d'écriture, le financement, ça a pris genre 6 mois, quoi.
Et jouer, c'était absolument nécessaire pour vous.
Moi, c'est ma soif de jouer qui m'a poussé.
Ah, vous dites soif, donc ça veut dire que c'est un besoin vital.
En fait, je ne pouvais pas me raconter autrement que par le jeu. Et en fait, je me suis dit, je suis devenu réalisateur par défaut. Quand je vois des réalisateurs parler de leur cinéphilie, moi, j'ai grandi avec les films de dimanche, les films indiens, hongkongais que je regardais avec mon oncle, mais ça s'arrête là. Et donc, à un moment donné, je me suis dit... Je me disais, est-ce que je suis capable de... Et en fait, à un moment donné, quand je suis parti à la FEMIS, c'est que j'ai mon univers à moi. Et en fait, en le développant, je me suis dit, bah, en fait, je vais l'approfondir. Et c'est vrai que c'est une voie qui s'est ouverte à moi où je m'y attendais vraiment pas. Et c'est vraiment le fait de jouer qui fait que j'écris et je réalise.
C'est vrai. Vous n'auriez pas pu faire le film sans jouer dedans.
Pour moi, c'est viscéral, le jeu. Mmh. En fait, c'est ma manière de travailler aussi avec les autres comédiens, c'est que je les dirige dans le jeu. Je n'ai aucune conscience de ce que je fais, moi, en tant que comédien, sur le plateau. J'ai un coach qui est là uniquement pour me regarder jouer. Moi, je suis tout le temps avec les autres. Donc, c'est ça qui fait que... C'est comme ça que je dirige.
Alors, avec une option sans folklore pour le film, mais avec beaucoup de couleurs en même temps.
Je voulais ni aller dans le misérabilisme, ni aller dans l'exotisme, parce que, voilà, j'en avais marre à chaque fois, quand on avait une représentation d'un tamoul, d'avoir la petite musique ding 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 pour dire que c'est des Indiens. J'en avais ma claque. Et donc, j'ai voulu arriver avec une représentation où on arrive haut en couleur, fort, exubérant, ça déborde dans tous les sens. Et c'était un peu s'imposer d'avoir une nouvelle représentation où c'est vrai qu'à chaque fois que je vois en tout cas cette minorité représentée à l'écran, bah c'est des petits gens qu'on a besoin d'aider, qu'on a besoin de tendre la main. Et là, je me disais, on n'a pas besoin d'avoir des mains tendues, on veut juste être fort et montrer qu'on est là.
Little Jaffna, c'est Little Italy de Scorsese?
C'est Little Italy de Scorsese et Little Odessa de James Gray.
Eh oui,
bien sûr.
Immeuble compris.
Ouais. Voilà. On vous écoute. Alors, vous êtes donc le jeune flic de la DGSI qui doit infiltrer sa propre communauté.
Ça va, ta grand-mère, elle tient le coup?
Elle a du mal avec la planque. Elle veut retourner à Clermont-Ferrand.
Tu peux me parler d'eux?
Ils se font appeler les Kilis. C'est une race de perruches colorées qu'on trouve au Sri Lanka.
Ok. Et là, c'est qui?
Lui, là, avec sa tête de bûcheron, c'est Pouviraj. C'est un des plus proches d'Aya. Pour toucher Aya, je vais passer par lui. Ils vivent ensemble, ils se lâchent jamais. Et que des orphelins qui ont fui la guerre. Pour soutenir les tigres, toute la communauté passe à la caisse. €200 pour les familles, 1000 euros pour les commerçants. Ah, il y a des arrangements avec certains, mais en gros, c'est ça les tarifs. Avec ce qui se passe au pays, les collègues vont encore augmenter.
C'est quoi le rythme des convois vers la Suisse?
J'ai l'impression que c'est pas régulier. C'est Aya qui décide au coup par coup en fonction des besoins des tics sur le terrain.
Ah bah oui, je me réveille, c'est la voix off de Scorsese, ça aussi. Non, c'est vrai, j'imagine.
C'est mieux avec l'image, mais oui.
Bah oui. Est-ce que ça existe vraiment, ces blanchiments, etc., ces trafics? Est-ce que c'est une mafia?
C'est politique, en plus, c'est une mafia politique.
Oui.
En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment, dans ce film, c'est que j'ai utilisé le film de genre gangster. C'est, ouais. C'est une réalité sociale qui ne l'est pas vraiment. C'est pas aussi stylisé que ça, c'est pas aussi gangster que ça. Les tamouls ne vont pas trucider des gens sur des toits d'immeubles parisiens, ça n'existe pas.
Non.
Par contre, tout ce qui est lié au conflit, ça c'est véritable. Tous les archives qu'on a dans le film, c'est véritable. Et donc c'est ça aussi que j'ai essayé d'amener dans ce film, c'est de mélanger en tout cas, on va dire, ce film de genre, en tout cas à travers ces films de gangsters, d'avoir des codes du polar qui permettent au spectateur qui ne connaît rien à ce conflit, qui ne connaît rien à cette communauté, de se dire « Ah bah ça c'est des codes que je connais, que ce soit le suspense, l'action, le thriller, je rentre dedans avec des codes que je connais. Par contre, je découvre plein de choses où j'étais pas au courant, notamment ce conflit et cette communauté. »
Avec la figure de l'infiltré comme fil conducteur. Comme aisément reconnaissable.
Mais par contre, voilà, il y a vraiment des éléments véritables, comme par exemple la fête de Ganesh qu'on voit au début du film et à la fin du film. En fait, moi, j'arrive et je mets mes comédiens dedans. Et en fait, à partir du jour réel, en fait, je mets ma fiction à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête, dans mon univers. Et en fait, c'est vrai que je joue avec ça, constamment.
Ils ont aimé jouer, tous ces jeunes tamouls avec toutes ces couleurs, ils ont...
La plupart des jeunes qu'on voit dans le film, c'est leur première fois. Et c'est vrai que ça a été un vrai plaisir, parce que pour eux, ils se sentaient vraiment pas légitimes de faire ce métier-là, parce que vu qu'ils n'avaient pas de modèle, il y a quelque part un truc de se dire, mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Et moi, j'ai impulsé cette action-là en me disant qu'en fait, s'il n'y a pas de modèle, c'est pas grave, en fait, on va les devenir ces modèles-là, parce que autant en France, on nous renvoie dans l'industrie, en tout cas du cinéma, on nous dit, bah en fait, t'es pas français, mais si je pars en Inde... Je suis pas non plus indien, je suis français. Et donc je me suis dit, je vais créer ma place avec ce film. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec tous ces jeunes-là, pour essayer d'avoir des nouveaux visages dans le cinéma français.
On va terminer avec cette question, mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est pas le parcours d'un traître, quoi. On n'est pas chez Scorsese. C'est plutôt un type qui s'interroge sur son identité, sa place en France et sa place dans la communauté tamoule.
Bah, c'est vrai que il y a cet archétype de, il commence policier français, il rencontre sa communauté et il devient un véritable gangster tamoul. Je voulais surtout pas aller dans ce cliché-là.
Ouais.
Et en fait, c'est pour moi, il commence policier français, il termine policier français, sauf qu'il connecte à son identité tamoul à un moment donné de son chemin, et c'est comment il va jongler avec les deux, sans devoir trahir l'un ou l'autre.
C'est très subtilement fait.
Ça s'appelle Little Jaffna, Lawrence Valin, c'est sorti, ça sort mercredi prochain, tandis que Mexico 86 est sorti mercredi.
On vous les recommande.
Merci César Diaz, merci Béa Guéjou, merci pour rester tous les trois avec nous, et on se retrouve après Bad Bunny.
Otra Navidad en la que te pedí. Otra Navidad que no está aquí. Feliz año nuevo, pero no tan feliz. Te dieron un beso a las 12 y no fui yo quien te lo di. Hace un año que yo estuve ahí. Hace un año que yo estuve ahí. Hace un año tu primer abrazo fue solo pa' mí. Me tenías en las nubes y como un rayo caí. Caí, caí, y ahora ni una llamada, ni un solo mensaje. Los brothers me la montan, dicen que estoy en un viaje. Son las 12:04 y ya estoy bien loco, llorando y bebiendo pitorro de coco que me trajo abuelo, pa' que vacilara, no pa' que por un cuero. A las 12 llorara.
Bomba.
siempre supe que era mala. No te creas que soy ciego. Yo cerraba los ojos y te besaba de nuevo. Con el doble 6 y doble 5 me trancaste luego. Tú y yo somos iguales, nos veremos luego.
France Inter, on aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Voilà, on était très agités. Alors, on va.
Au bon sens du terme.
Bah oui. Bah bien sûr. Bon, alors. On va commencer cette série de sorties avec La Chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel. 1943 en Ukraine, pour le sauver de la déportation, une femme confie son enfant à une prostituée qui vit dans une maison close, cachée dans un placard. Son existence est suspendue au bruit qui l'entoure et aux scènes qu'il devine. Deux histoires au milieu de la grande histoire dans ce huis clos sur le courage et la résilience, adapté du roman d'Aaron Appelfeld, troisième volet de la trilogie presque de Finkiel, après Voyage et la douleur, un film tenu de bout en bout par Mélanie Thierry. En ukrainien dans le texte.
Oui, on a, il faut le dire hein, d'emblée, on a beaucoup d'admiration pour le cinéma d'Emmanuel Finkiel, auteur de doc et de fiction très réussi. On se souvient notamment, effectivement, de l'adaptation de La Douleur de Marguerite Duras, avec Magimel et Mélanie Thierry, qu'on retrouve donc ouais. dans ce nouveau film, lui aussi d'ailleurs adapté, vous le disiez, d'un livre. Et c'est peut-être cette dimension d'adaptation qui pose problème, enfin en tous les cas moi qui m'a posé problème, non pas à cause du livre lui-même de Appelfeld, qui est un très très beau livre, mais peut-être que son passage sur grand écran nécessite de grossir le trait, de rendre le récit un peu plus lourd qu'il ne l'est encore. C'est une interprétation que j'ai, en tous les cas. Reste, et il faut y insister beaucoup, une Mélanie Thierry absolument impeccable. Ouais, c'est à nouveau pour elle un très très beau rôle et un très grand rôle.
Le Clan des Bêtes, premier film du Britannique Christopher Andrews, un berger irlandais est entraîné dans un conflit violent avec une femme voisine lorsque ses moutons sont attaqués par des inconnus. C'est une exploration de la masculinité et du poids des figures paternelles, ou comment la violence s'installe et se perpétue au sein des communautés rurales, un thriller dans l'ombre d'un autre Laurent Asbestas.
Oui, alors c'est vrai, on songe à Asbestas de Sorogoyen, c'est pas forcément au détriment du Clan des Bêtes, dont c'est donc un premier film, un premier long métrage. On est donc ici en Galice mais en Irlande, ouais. Pardon. Et la première scène est absolument magistrale et elle révèle tout à fait la capacité du réalisateur à donner de l'épaisseur à ses personnages. Il maîtrise tout autant, par exemple, la question du point de vue. Résultat, c'est un portrait sec, tranchant d'un univers, vous le disiez, absolument masculin, qui se heurte par ailleurs à un capitalisme tout aussi masculin, virulent et sans limite.
Familia de Francesco Costabile. Rome, début des années 2000, Licia élève seule ses fils suite à une mesure d'éloignement de Franco, leur père, dont la violence a marqué leur enfance, et un homme qui va revenir. Un féminicide inspiré de faits réels vécus par l'auteur du livre. Il n'en sera pas toujours ainsi, il s'appelle Luigi Celeste, dont le film est adapté. Un récit sur la transmission de la violence, jusqu'à cette idée qu'elle ferait le lit du fascisme.
Oui, idée ô combien intéressante, et décidément, le cinéma italien nous envoie régulièrement en ce moment de très bonnes nouvelles, ouais. D'une sorte de vitalité retrouvée, et on peut que s'en réjouir. C'est le cas par exemple récemment de Vermiglio, on avait beaucoup aimé, et ce second long métrage de Francesco Costabile est dans cette lignée. Il y aurait ici presque un peu de Pasolini, une sorte de Médée paternelle, je le dis sans que ça soit écrasant, format resserré, décor en huis clos ou presque, musique en volute. Tout concourt à enserrer le spectateur dans un thriller aux allures de tragédie grecque, donc. Avec au total un portrait de la violence virile, une fois de plus, tiens donc, et une assez impressionnante et convaincante façon de la montrer.
L'amour, c'est surcoté. C'est un premier film de Morad Winter qui a adapté son premier roman. C'est l'histoire d'un garçon qui est réputé nul avec les filles et qui va en rencontrer une sans croire à l'amour, mais peut-être l'amour va-t-il arriver. Comédie romantique aux couleurs de notre époque, entre émotion et humour, plus deux jeunes acteurs hyper convaincants, Hakim Jemili et Laura Felpin.
C'est un curieux objet qui se veut effectivement humoristique, décalé, irrévérencieux, avec Laura Felpin en tête d'affiche. Oui, mais bon, à la longue, on est quand même un peu interloqué de devoir subir autant de complaisance à l'égard de personnages ouvertement transphobes, antisémistes et racistes. Le second degré, c'est bien. C'est très très difficile à maîtriser.
C'est très stand-up, hein, dans l'esprit aussi. C'est aussi une banlieue qui se moque de la banlieue.
Ouais.
C'est mignon.
Ouais.
The Gazer, premier film de Ryan G. Sloan. Frankie est atteint d'une maladie dégénérative qui l'empêche de se repérer dans le temps, encline à la paranoïa et sujette à des pertes de conscience fréquentes. Elle enregistre des messages sur des cassettes pour se repérer et assurer sa sécurité. Incapable de trouver un travail stable dans son état, en quête d'argent pour récupérer la garde de sa fille, elle accepte une mission proposée par une femme aux intentions troubles. Film noir, 16 mm, indépendant et autoproduit, audacieux.
Oui, on l'avait découvert à Cannes l'an dernier, à la quinzaine des réalisateurs. Il a mis un an à sortir, mais c'est bien de le sortir. C'est, à l'origine, le réalisateur était électricien de métier, il faut le dire, ce qui explique ce budget absolument modeste et, parallèlement, la réussite de ce thriller, tourné, vous le disiez, en 16 mm, avec un scénario absolument emberlificoté à souhait, et beaucoup de virtuosité à imbriquer la réalité et les images mentales dues à la pathologie dont souffre Frankie, l'héroïne du film. Le tout est absolument fiévreux, anxiogène, avec de très très belles références cinéphiles, de Hitchcock à Cronenberg. Alors certains ont pu penser que c'est un exercice de style, oui, mais alors c'est extrêmement brillant.
Simon de la Montagna, premier film de l'Argentin Federico Luis. Simon a 21 ans et vit en Argentine. Depuis peu, il fréquente une nouvelle bande d'amis inattendus, des personnes en situation de handicap, comme on dit, auprès d'eux. Pour la première fois, il a le sentiment d'être lui-même, mais son entourage s'inquiète et ne le reconnaît plus. C'est un récit initiatique audacieux qui interroge notre relation à la norme en suscitant le trouble.
Oui, alors décidément, là aussi, qu'est-ce qu'on est content de recevoir des nouvelles
d'Argentine,
parce que ça devient une nouvelle vague formidable, le cinéma argentin. Pardonnez-moi, ici, une scène d'ouverture incroyable, stupéfiante de beauté et d'intensité, sur une montagne balayée par des vents ultra-violents et un groupe de jeunes garçons et de jeunes filles qui tentent de résister à la fureur des éléments. C'est la rencontre du héros avec ce groupe dont on devinera qu'il est ensuite un groupe d'handicapés auquel il veut s'intégrer. Et le film interroge effectivement cette normalité, cette volonté d'appartenance. Et c'est un récit d'apprentissage, mais d'apprentissage également amoureux. Le film décrit subtilement et par petites touches impressionnantes l'éveil d'une sensibilité et en convoquant la nôtre.
Simon de la Montagna, c'est d'ailleurs l'un des derniers films financés par l'Institut National du Cinéma argentin avant sa fermeture.
Absolument.
Par un type qui s'appelle Javier Milei.
Non, on ne dira pas son nom. On ne dit pas son nom.
Un médecin pour la paix, c'est un doc de Tal Barda sur Izzeldine Abouelech, premier médecin palestinien qui a travaillé dans un hôpital israélien, qui a vu sa maison bombardée, tuant 3 de ses filles et une nièce. Un film et un appel, vu les circonstances, à la tolérance et traversé par le respect et la dignité de cet homme, Laurent.
Oui, alors il faut dire que sa vie est incroyable. Il a été aussi 5 fois pressenti pour le prix Nobel de la paix.
Oui.
Hein, c'est donc si sa contribution est reconnue de façon internationale. Alors, ce qu'on peut juste dire, c'est que la forme est presque à rebours de ce destin incroyable et bouleversant,
classique,
tant elle est lisse, et oui, convenu, convenable. Et c'est pourquoi on peut presque se demander, est-ce qu'une sortie cinéma s'impose quand une diffusion télé lui apporterait beaucoup plus de spectateurs et serait peut-être mieux, effectivement, pour ce média-là.
Ce qui va être son destin après la sortie cinéma, on
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Un festival.
Nous allons à Perpignan, vous le savez, c'est la gare qui est le centre du monde d'après Dali. Ça sera aussi le centre du cinéma du 2 au 6 mai, grâce à l'Institut Jean Vigo, qui, pour la 60e édition, fait son festival Confrontation, avec, je trouve, un thème central mais qui est génial, c'est les animaux, les bêtes au cinéma. Il y a de quoi faire, hein, vraiment, évidemment. Donc 70 films au total pour se remémorer de ces belles occurrences cinématographiques à Perpignan du 2 au 6 mai.
Attendez, avec un invité d'honneur qui a beaucoup filmé les animaux.
Un certain Jean-Jacques Hano.
Voilà, c'est
mais
ça.
Oui, l'ours est derrière lui.
Et il nous reste vraiment du temps, Laurent, les cadeaux.
Ben c'est une excellente idée, voilà. Parce que ce sont des très beaux cadeaux.
Oui.
Bérénice Béjot, on vous offre le dernier Clint Eastwood en date. Ah, juré numéro 2.
J'ai pas eu le temps de le voir.
Ah ben alors, tant mieux. C'est un très beau Blu-ray de chez Warner.
Merci.
C'est un film de procès. C'est un film extrêmement...
J'adore ça en plus.
Voilà. Vous avez tourné, non, il me semble.
Avec un cas de conscience passionnant.
Passionnant.
Quelque chose qui ne pourrait tous nous arriver sur la route un soir.
Absolument. Absolument. Ouais. Donc je rappelle, chez Warner, c'est vraiment un très beau Blu-ray, très bien fait, ouais. Et le film mérite évidemment d'être vu et revu. Pour vous, César Diaz, un film d'un certain Godard, Jean-Luc, votre cinéphilie va craquer. C'est Détective, 1985. Le casting est incroyable. Jean-Pierre Léo, Nathalie Baye, Claude Brasseur et Johnny Hallyday. Et Johnny Hallyday, on retrouve un entretien avec lui dans les beaux bonus de ce DVD de Studio Canal, introduit par Jérôme Vimont, et qui là aussi permet, avec un Blu-ray, de donner toute la mesure godardienne de cet univers qu'on aime évidemment beaucoup.
Juste une petite question, parce que je crois que Nuit et brouillard a été très important dans votre parcours, je parlais d'Alain Resnais, par rapport à ce film aussi.
La représentation de l'horreur, c'est toujours un sujet, surtout après un passé aussi lourd que le Guatémaltèque. Chez Nuestras Madres, c'était une question qui traversait le film.
Voilà.
Et même ici aussi, comment représenter cette horreur ?
Pour vous, Lorenz Valin, vous êtes un cinéphile éclectique, et ce sera Requiem for a Dream d'Aronofsky, merveilleux coffret qui vient d'être publié par la nouvelle boîte Bubble Pop qu'on aime beaucoup, Blu-ray 4K avec un livret de 90 pages, une heure d'entretien, bref, c'est presque une édition définitive de ce film incroyable.
Merci beaucoup.
En tout cas, merci beaucoup à tous les trois, merci Lorenz Valin pour votre film Little Jaffna qui sort mercredi prochain, merci César Diaz et Bérénice Bejo pour ce beau film vraiment qui rappelle effectivement les polars des années 70 aux États-Unis, mais qui est en France et qui est réalisé par vous et qui est sorti depuis mercredi. On va dire merci à notre belle équipe, Valérie Ayestaray à la réalisation, Louise Tempero pour la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Au revoir.
Salut.